Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur le Facebook de l'émission, le Facebook Live de Sud Radio. Vous allez sur Facebook, même je crois qu'en allant sur le site, vous pouvez même nous suivre si vous n'avez pas Facebook. Donc vous pouvez voir ce qui se passe dans le studio et nous appeler évidemment 0826 300 300. On est avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff aujourd'hui pour débattre, commenter l'actualité. Laurence Marchand-Taillade, bonjour.
Bonjour.
Présidente de Force Laïque. Maurice Ulrich, éditorialiste à bonjour. L'Humanité. Bonjour Maurice. Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération.S, le mouvement de Benoît Hamon.
Bonjour.
Parce que c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément.
Maintenant, on va le savoir.
Voilà. Ivor Youfol, éditorialiste au Figaro. On vous retrouve tous les vendredis dans votre, avec votre bloc-notes. Et puis, vous avez publié. C'est une nouvelle édition mise à jour, Macron, de la grande mascarade aux gilets jaunes aux éditions L'Artilleur. Donc, c'est une édition mise à jour.
L'Artilleur, bon, ça va bien, Yvan. La maison d'édition.
On va évidemment parler de l'affaire Benalla, affaire d'État ou amateurisme d'État. Qu'en pensez-vous? Vous, 0826 300 300. Hier, Mediapart a dévoilé, révélé un certain nombre d'enregistrements plutôt embarrassants pour Alexandre Benalla et qui, bah, du coup, mettent également le président de la République dans l'embarras puisqu'il affirme que le chef de l'État le soutient. Tarif des péages, loi alimentation, est-ce que vous avez le sentiment de perdre du pouvoir d'achat, même parce que c'est, je pense que c'est plus un sentiment. Et puis, acte 12 des gilets jaunes, que va-t-il se passer demain? Irez-vous manifester? Est-ce que vous soutenez les gilets jaunes? Hier, le président de la République a mis en doute le soutien, les résultats des sondages sur les gilets jaunes. Donc, on va en reparler. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alors, Yvan, c'est très pragmatique aujourd'hui. C'est votre coup de cœur,
eh ben,
votre
mon coup de cœur, moi, je suis un utilisateur de la gare Montparnasse, ouais. Parce que j'ai de la famille encore dans l'Ouest. Et c'est la quatrième fois, ou peut-être la cinquième fois, en un an et demi, qu'il y a des pannes monstrueuses, des pannes d'électricité qui bloquent les voyageurs. Et donc, c'est pas un coup de... C'est pas un coup de gueule, mais c'est une énorme interrogation un coup de gueule sur le manque d'investissement de la SNCF, qui visiblement a des priorités sur les TGV et sur les autres, mais qui n'a pas la priorité élémentaire de mettre à jour ces éléments électriques. Alors ça m'échappe totalement, mais ce sont des pannes énormes et qui surtout se répètent, encore une fois, c'est la quatrième ou la cinquième. Donc les usagers de Montparnasse, mais peut-être d'ailleurs aussi, moi je ne connais que Montparnasse, sont coutumiers de ces pannes,
essentiellement
ces retards.
Montparnasse, hein, qui a eu de très gros problèmes.
Je n'ai pas l'explication, sinon qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment d'investissement.
Il y a des dysfonctionnements, mais un petit peu partout.
Donc,
pour
avoir
des familles en province également, des trains annulés, supprimés.
Voilà, et des retards très souvent.
Mais pour le coup, sur Montparnasse, il y a aussi un problème de réseau électrique francilien, puisque je me souviens qu'une des grandes pannes avait été liée à un alternateur qui avait brûlé, pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui avait bloqué une partie de Paris. Et on avait vu à cette époque-là la fragilité du réseau électrique français, notamment en Île-de-France, et particulièrement dans ce quartier-là. Donc je pense que la SNCF, effectivement, a une part de responsabilité très forte, mais qu'il y a une question à se poser aussi sur la structuration de notre réseau EDF, notamment en Île-de-France, qui est aussi très fragile.
C'est une question sur la vétusté de nos infrastructures en règle générale.
Oui, sur les priorités.
Il n'y a aucun investissement structurel, que ce soit sur le rail comme sur le réseau électrique, où on s'est appuyé sur des réseaux qui sont vieillissants, qui ont 40, 50 ans, sans jamais investir. Et puis, le résultat, c'est ça, mais c'est aussi les conditions de transport des voyageurs qui sont lamentables en Île-de-France.
Et des réseaux qu'on surutilise par rapport à l'époque où ils ont été créés. Donc, c'est vrai qu'il y a un manque flagrant d'investissement sur les grands dispositifs français, mais ça, c'est...
Laurence, votre coup de gueule?
Alors, mon coup de gueule, c'est que hier, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rendu un avis sur l'affaire Vincent Lambert. Je vous rappelle que ce monsieur, donc ça fait 10 ans qu'il est dans un état végétatif, maintenu en vie parce que ses parents refusent d'accepter que les soins qui lui sont accordés soient arrêtés malgré son souhait, puisqu'il l'avait exprimé à plusieurs reprises. Et ça pose la question non seulement du droit de mourir de la dignité, mais aussi de l'intégrisme catholique, puisque ces personnes sont soutenues par les franges intégristes d'extrême droite catholique pour lutter contre la fin de vie dans la dignité et puis un certain nombre d'autres droits. Et tout ça, ça pose la question justement de la loi Claeys-Leonetti qui n'est pas intégrée au prochain projet de loi sur la réforme bioéthique, puisque le gouvernement a souhaité complètement éluder cette question. Donc on va encore devoir attendre pour décider de sa fin de vie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour les politiques en tout cas qui sont au gouvernement, eh bien ils considèrent que nous ne sommes pas propriétaires de notre corps et nous ne pouvons pas décider de notre mort.
Mm-hmm. Michel Pouzol.
Oui, avec un point d'ailleurs qui rejoint un peu les débats que nous allons avoir peut-être sur les gilets jaunes ou sur ce qui se passe en ce moment, parce que quand on parle de référendum par exemple, on sait très bien que la population française est beaucoup plus en avance que nos élites politiques sur la question de la fin de vie, et que si on passait par voie référendaire, et ben je pense qu'on aurait
95%
des Français sont pour la révision de ces dispositifs-là. Donc c'est pas pour dire ça, mais je pense qu'effectivement il faut qu'on aille plus loin et qu'on sorte de ce.
Oui, enfin, il faut faire attention parce que sur ces questions-là, si vous posez des questions aux gens en leur disant, par exemple, pour un violeur d'enfants, est-ce que vous êtes pour la peine de mort, ils seront aussi à 95% peut-être aussi pour.
On est bien d'accord.
Donc il faut quand même.
Ce que je veux dire, c'est que la population parfois peut être en avance par rapport à ses élites. Elle peut être en retard, mais elle peut être aussi en avance par rapport à ses élites politiques.
Je crois que le cas de Vincent Lambert dépasse la simple question de. Enfin, la simple question, non, qui n'est pas du tout une simple question. La question bien compliquée, à la fois, oui, et de la religion, et aussi du débat sur la fin de vie, parce que on est devant quelque chose d'assez scandaleux. Ça fait 10 ans que cet homme, je suis désolé, est un végétatif, etc., et qu'on a une part de sa famille contre la vie de son ex-femme, d'ailleurs, si j'ai bien compris, qui s'oppose à ce qu'on a.
Et de son frère,
parce qu'avec lui, il ne s'agit pas d'acharnement thérapeutique, il s'agit simplement d'arrêter d'entretenir une vie végétative qui n'a plus aucun sens. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est presque en dehors du débat, même sur le droit de mourir, comme vous dites.
Oui, mais alors vous dites qu'il n'y a pas d'incidence religieuse. En l'occurrence, quand on s'intéresse un peu au dossier, on se rend compte que l'avocat de la famille, c'est aussi l'avocat de que les parents font aussi partie de ces mouvements. Oui. La mère fait partie de la fraternité Saint-Pédis, qui a quand même été exclue du Vatican tellement ils sont intégristes. Ils ont des poussées sectaires. Le père fait partie des franges.
D'accord, mais c'est un cas très précis, très particulier.
C'est un cas très précis, mais qui démontre qu'on a en France encore des gens qui considèrent qu'ils peuvent imposer leurs propres règles, celles qu'ils veulent s'imposer à eux-mêmes, à l'ensemble d'une population et à des gens qui ne partagent pas leurs valeurs.
Je pourrais être d'accord avec vous, mais j'étais choqué de la manière dont vous avez voulu montrer que c'était une extrême droite catholique, je ne pense pas que la politique ait à voir là-dedans, en tout cas, ni l'extrême droite, ni l'extrême catholicisme.
Civitas s'est emparé de ce dossier, par exemple.
Oui, mais enfin, on peut comprendre que c'est d'abord une question morale, une question éthique, c'est une question de savoir si l'on doit préserver la vie humaine et jusqu'à quand. Moi, je suis de ceux qui pensent que cet acharnement est inhumain, mais au prétexte d'humanité. Mais le débat me paraît être sincère et doit être ouvert et sûrement pas être réduit à des oukases politiques en disant c'est de l'extrême droite, c'est de l'extrême droite. Je crois que c'est vraiment horriblement complexe. Moi, je préférerais, si j'avais à choisir, d'arrêter les soins naturellement, si ça avait été un de mes proches. Mmh. Mais je comprends très bien qu'il y ait des familles qui puissent penser qu'il y a encore un souffle de vie.
Il y a une instrumentalisation, ça certainement,
bien
sûr.
On va continuer ce tour de table.
C'est
Michel,
pas l'origine, je crois. C'est...
Michel, votre...
Alors, moi, j'aurais pu prendre aujourd'hui, pour mettre un peu de légèreté, et puis comme on est sur la radio, le début du tournoi Destination.
Bien sûr,
ça démarre
ce soir.
Le match est déjà important. J'ai mis mon maillot d'équipe de France aujourd'hui. Mais je vais faire à la fois un coup de gueule et un coup de cœur. C'est la même chose, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est le jour où la Fondation Abbé Pierre rend son rapport annuel sur le mal-logement. Alors, c'est un coup de cœur pour la Fondation Abbé Pierre et tout ce qu'ils font,
qui poursuit
son travail avec obstination dans un silence assez important, assourdissant des politiques, et un coup de gueule pour les résultats. Alors, il y a deux axes très importants dans ce rapport cette année. Un, sur une étude sur ce que deviennent les populations qui sortent des aides d'État ou de la prise en charge de l'État, donc notamment les enfants de l'ASE ou les personnes qui sortent de prison, etc. Et on se rend compte qu'ils forment le gros des gens qui vivent à la rue, que là-dessus, les parcours ne sont absolument pas tenus, c'est-à-dire qu'on va protéger des enfants jusqu'à 18 ans, puis les lâcher comme ça dans nos villes. Donc c'est une catastrophe absolue. Je pense qu'il faudrait qu'on en tienne compte. Et le deuxième axe qui est très important, qui est plus un axe d'espérance, qui dit la Fondation Abbé Pierre insiste sur le fait qu'un parcours d'insertion est d'autant plus réussi qu'on commence par le logement. D'ailleurs, alors que dans notre pays, bien souvent, on traite d'abord d'une insertion par les côtés, je dirais, les plus faciles, entre guillemets, à faire, et qu'on se préoccupe du logement à la fin. Eh bien, c'est une cause d'échec de l'insertion. Mmh. Donc, si on attaquait par le logement, peut-être qu'on aurait une chance de réussir ce truc-là. Donc, c'est un sujet vachement important.
Bien sûr, et là, je partage totalement votre opinion, mais je trouve regrettable que les deux derniers gouvernements, Sarkozy, qui a fait voter en 2012 une loi interdisant l'habitation en habitation légère, puisqu'il y avait un certain nombre d'initiatives dont j'étais l'initiateur, dont l'objectif était de loger des personnes dans des chalets qui étaient construits en bois et qui leur donnaient justement l'accès à une clé. Et la clé, c'est la boîte aux lettres et donc l'adresse qui permet justement de toucher des aides. Et cette initiative a été mise complètement à terre par M. Estrosi qui voulait protéger certainement ses campings. Et le résultat, exactement, c'est que cette loi n'a jamais été abrogée malgré les pressions des associations, de façon à pouvoir réinsérer dans un premier temps, évidemment, des gens dans une habitation légère. Alors, a un problème en France, oui, c'est justement la primo-accession, c'est-à-dire le parcours du logement auquel il manque un étage, et cet étage, c'est un logement d'urgence un peu plus pérenne.
On a un problème, c'est la reprise en main par les acteurs publics du problème du foncier.
On a bien voulu parler un peu.
C'est le foncier qui fait que le logement, aujourd'hui, est dans une impasse totale, et c'est, on construirait plus facilement si le foncier redevenait quelque chose d'exploitable, non pas un outil de spéculation.
Pardon. Le coup de gueule de Maurice Ulrich, on va le faire au retour de la pub. C'est un très bon teasing, c'est ce qui se passe à Sarcelles. C'était aussi mon coup de gueule, Maurice.
Ah bon, donc,
on va l'appeler coup de gueule l'émission. Allez, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Alors, on va évidemment parler de l'affaire Benalla, mais avant, le coup de gueule de Maurice Ulrich. Alors, vous en aviez deux. On va commencer peut-être par le même, celui que nous avions en commun. C'est ce qui se passe à Sarcelles. La justice a annulé l'élection municipale à Sarcelles en raison d'un très grand nombre de femmes.
Le tribunal administratif de Sergi Pontoise, qui avait été saisi par des élus d'opposition, mais ça aurait peut-être pu être d'autres, a annulé l'élection de 14 adjointes de Sarcelles, au motif qu'il y avait 8 femmes et 6 hommes, etc. Donc, l'annulation est prononcée au nom de la parité. Alors, évidemment, c'est parfaitement légal, puisque maintenant, c'est une obligation. Sauf que cette légalité, je dirais, elle est un peu sournoise, mesquine, voire crapoteuse, si je peux me permettre le mot, parce que s'il avait fallu annuler depuis des décennies les conseils municipaux et les adjoints, où il y avait plus d'hommes que de femmes,
la loi n'était pas prise à ce moment-là.
D'accord, Yvan, mais je suis même pas persuadé que si on examinait actuellement tous les effectifs d'adjoints dans les municipalités, on ne serait pas contraint à l'annulation de centaines d'adjoints. Donc, je trouve ils vont pas refaire l'élection, ils vont arranger ça à Sarcelles. Bon, peu importe en réalité. Mais enfin, je trouve ça de la part de ceux qui sont allés porter plainte sur ce motif, je dirais un peu mesquin, quoi. Voilà, c'est petit, c'est pas très brillant.
Sans doute voulait-il se moquer de cette loi de la parité qui effectivement.
Ils ont voulu faire un petit coup politique.
On comprend bien l'idée, mais il y a aussi une affaire de compétences. On n'est pas obligé à chaque fois de trouver des compétences équivalentes chez les hommes et chez les femmes pour des sujets donné. Donc, il y a quand même des carcans qui peuvent...
Alors, votre deuxième coup de gueule, vous nous l'avez appris,
C'est la fête, là, s'il y a deux coups de gueule. C'est beaucoup plus scandaleux, quand même. C'est tout simplement l'installation d'un musée de la saucisse dans un camp qui était une dépendance du camp de Buchenwald. Donc, c'est assez monstrueux, puisque des femmes juives ont été internées dans ce camp, qui ont été soumises au travail forcé, bien évidemment, avec tout ce que ça suppose, comme on le sait. La création d'un musée de la saucisse,
c'est quelque chose de
profondément choquant, même dans le choix de ce musée, quoi. Alors voilà, on va y avoir un restaurant gastronomique de la saucisse, etc. Bon, voilà, c'est peut-être pas la peine d'assister. Je trouve ça particulièrement odieux et scandaleux.
Indignant. Allez, on va passer au sujet du jour, l'affaire Benalla. Alors moi, je dois vous dire que j'étais assez surprise de voir le traitement qui a été fait par les chaînes d'infos en général, à qui on reproche d'être sur... Là, il y a eu assez... ça a été assez peu. Hier soir, j'ai zappé, je suis rentrée, j'avais envie de savoir. Et il n'y a pas eu... il n'y a pas eu énormément de choses. Ce matin, ce n'était pas à la une des journaux radio. Donc, je m'interroge sur le fait que ça ne soit pas considéré comme une affaire importante. Pour moi, c'en est une, en tout cas. Donc, je vous resitue un petit peu le site Mediapart qui a publié une enquête, dont un enregistrement clandestin assez mystérieux qui est assez compromettant pour Alexandre Benalla et pour le chef de l'État, puisqu'il évoque Alexandre Benalla dans un échange avec Vincent Crase, le soutien du patron, donc le chef de l'État. Ils parlent de leur démêlé, ils évoquent un certain nombre de choses. Vincent Crase dit faudrait que je retourne à La République En Marche, mais il y a des flics devant pour récupérer des choses. Et puis surtout, surtout, ce qui me semble être le plus grave, c'est que Alexandre Benalla, devant les sénateurs, a dit qu'il ne connaissait pas cet oligarque russe avec lequel Vincent Crasse a fait des affaires. Et visiblement, dans ses enregistrements, on comprend qu'il était totalement partie prenante. Affaire d'État ou pas
pour oui, vous, possiblement, Yvan, oui. Et c'est vrai que cette prudence est étonnante pour l'instant. Enfin, en même temps, peut-être que les journalistes veulent vérifier les sources, ce qui pourrait être tout à fait normal.
Ce serait une première depuis un petit moment.
Ils peuvent avoir quand même cette précaution-là. Mais pour ce que l'on en sait, si les sources sont exactes, ce qui est révélé là n'est pas tout à fait une surprise quand on sait que la confiance qu'avait placée Macron dans Benalla et cette espèce d'hubris qui avait saisi Benalla précisément à voir que Macron le soutenait quoi qu'il arrive. Donc il y a là ce que l'on avait déjà décrit à l'époque d'une sorte de grande proximité et puis d'une grande légèreté dans le fond de la part de Macron et qui avait été également perçu chez celui-là. Mais en effet, d'avoir menti devant la commission, d'avoir de ne pas avoir respecté l'obligation qu'il avait de ne pas rencontrer Crasse, d'avoir menti devant la commission parlementaire en disant qu'il ne connaissait pas cet oligarque alors qu'il était en affaire avec lui, et surtout ayant eu accès à des secrets défense, d'avoir participé à un contrat qui implique l'entourage de Poutine, ça me paraît particulièrement dangereux. Et il me semble qu'il y a une imprudence à la tête de l'État d'avoir laissé cet homme-là, un peu imprévisible, aller fouiner jusqu'à faire des affaires.
Il y a un article dans Le Monde, il y a une page entière dans Le Monde, datée d'aujourd'hui, qui évoque aussi les relations d'Alexandre Benalla avec une femme qui fait des affaires avec la Russie, avec certains pays d'Afrique. On voit qu'Alexandre Benalla, sa femme, aurait été accueillie avenue Foch le soir de la perquisition chez lui. Donc il y a des relations assez troubles d'Alexandre Benalla. Donc, question.
J'ai pas l'impression que ce soit des maladresses, j'ai pas l'impression que c'était son rôle. Son rôle. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que le rôle de proximité de Benalla, il se chargeait de certaines basses besognes, ou en tout cas des choses qui doivent passer sous les radars de la République. Alors, ça prouve au moins une chose, c'est que le Sénat a bien raison de poursuivre son enquête parlementaire. Ça prouve en creux que la commission parlementaire de l'Assemblée nationale n'a pas tenu son rôle. C'est une crise d'État, quand même, parce que on ne ment pas impunément devant une commission parlementaire. Le président de la République, visiblement, était au courant. Moi, je pense que l'affaire Benalla n'est pas terminée et que les conséquences... Enfin, on est sur la partie émergée d'iceberg et que tout n'est pas dit, tout n'est pas fait. Et en connaissant Mediapart, on sait leur talent de feuilletoniste pour vendre leurs informations. Je pense qu'on a intérêt à suivre l'actualité de manière très, très précise dans les semaines qui
viennent. On a Pierre en ligne avec nous qui souhaitait réagir. 0826-300-300. Cette affaire Benalla est-elle une affaire d'État? On vous écoute, Pierre.
Bonjour. Oui, je crois qu'en fait, la séquence Benalla, il faut peut-être éviter d'en parler, ou trop en parler actuellement, parce que plus on s'enfonce vers ce type d'affaires, et plus la situation sociale peut devenir explosive. Sachant que Macron, à mon sens...
Pardon Pierre, on met la poussière sous le tapis.
Oui, quelque part, oui. Pour le moment, on n'est pas obligé de la mettre sous le tapis pendant 2 ans. On la met le temps qu'il faut pour que la situation sociale se rétablisse. Et je pense que si aujourd'hui certains journalistes évitent d'évoquer le sujet, c'est peut-être dans ce sens-là. Mais maintenant, je crois que M. Macron a fait 2 erreurs. Il fait 2 erreurs depuis le début de son mandat. D'une part, il fait une erreur qui est verbale. Il utilise un langage populaire systématiquement, alors qu'au fond la parole d'un président se voudrait être sacrée, enfin majestueuse, je dirais. Et puis la deuxième chose, justement, pour se rapprocher de ce sujet, c'est qu'on ne transpose pas, à mon sens, au monde politique, les techniques stratégiques qui s'appliquent dans les milieux d'affaires. Et lorsque vous avez ce type d'individu comme Benalla, qui est au fond un peu sulfureux, qui est peut-être son copain, mais qui est quand même assez sulfureux, autant ça peut être bon dans les affaires, surtout si les affaires tournent mal, on a besoin de gros bras, autant dans le monde politique, le monde politique est tellement... décrypté que il faut éviter ce type de bonhomme. Et ça, c'est ça. Pour moi, c'est sa deuxième erreur.
Mmh. Alors, éviter d'en parler, je ne sais pas, Laurence Marchand-Taillade.
Moi, je pense qu'il faut au contraire, de toute façon, c'est pas dans les semaines qui vont venir, à mon avis, que la situation sociale va se calmer, étant donné encore les dernières déclarations d'Emmanuel Macron et la façon dont il dément la légitimité des sondages. Je vous rappelle que dans les sondages, à 81%, on considère qu'il est complètement déconnecté des réalités. Donc, la personnalité d'Emmanuel Macron est très probablement fléché plonger dans la colère des Gilets jaunes et ça ne va pas changer grand-chose, malheureusement, l'affaire Benalla, parce que cette affaire...
Ça peut mettre de l'huile sur le feu, entre guillemets, ça peut
mais, évidemment, enfin, ça met de l'huile sur le feu, mais de toute façon, il n'y a pas une semaine où on n'a pas une nouvelle affaire en col blanc, en tout cas, au sein du gouvernement. On pourrait les lister. Hein. Moi, j'ai relevé Ferrand et les mutuelles de Bretagne, Buzyn et la rénovation de ses immeubles, Colère et la MSC, ou encore MJ Delgarade qui a agressé un de ses opposants politiques à coups de casque. Et en l'occurrence, de quoi on se rend compte, c'est que ces personnes ne sont pas écartées du pouvoir. Ces personnes sont soutenues par Emmanuel Macron. Je pense que la camaraderie doit à un moment trouver des limites. Et les limites, c'est quand un président reste un président et oublie qu'il n'est pas une personne, mais qu'il est bien dans une fonction présidentielle. En l'occurrence, on se rend compte que Emmanuel Macron a complètement oublié la fonction qu'il est censé occuper et il fait passer ses amitiés avant ses obligations.
Peut-être un peu radical comme analyse, mais on en débat. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, avec Laurence Marchand-Taillade, présidente de Force Laïque, Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération.S, et Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Je rappelle votre dernier livre, Macron de la grande mascarade au gilet jaune, nouvelle édition mise à jour aux éditions L'Artilleur, et Maurice Ulrich, éditorialiste à l'Humanité. On ne vous a pas entendu, Maurice, donc sur cette affaire Benalla.
En fait, je n'ai pas tellement d'autres choses à dire que ce qui a été dit. Non, simplement, moi, je pense qu'on peut quand même s'étonner de ce qu'un jeune homme, enfin, qui a commencé à être le chargé de mission, donc, du coup, à 24 ans, puisqu'il en a 26, se retrouve tout d'un coup à aller rencontrer des chefs d'État, à nouer des relations avec X ou Y, se sent autorisé à jouer les commandants de police, si je puis dire. Enfin, donc, il me paraît assez évident que ce jeune homme, parce que qui au départ est un simple garde du corps, jouissait d'une confiance très très importante de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'autrement on voit pas comment il aurait pu avoir ce parcours, à mon avis. Hein. Mm. Bon, bien sûr, on en a pas la certitude, mais alors bien, moi je pense qu'il faut quand même faire attention à ses déclarations à lui,
parce que quand il dit, quand il dit le patron
me soutient. Ouais. Bon, on peut dire peut-être qu'il invente, peut-être qu'il se fait valoir, etc.
Truc de dingue, le patron, hier, il m'envoie un message, voilà. Il me dit, tu vas aller bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi.
Voilà. Mais en tout état de cause, ça ne change rien au fait que ce jeune homme, au fond, s'est retrouvé dans une situation qui lui permettait beaucoup de choses. Enfin, moi, je suis désolé, quelqu'un qui se retrouve au chômage du jour au lendemain, parce qu'au départ, il était simplement chargé de la sécurité, on voit mal comment se retrouver d'ailleurs. Parce que la commission d'enquête du Sénat lui dit, mais quel est votre statut actuellement en juillet? Il dit, Pôle emploi. Bon, ben, moi, je connais peu de gens à Pôle emploi qui, 3 mois après, se baladent avec des passeports diplomatiques, rencontrent des chefs d'État.
Ils font 24 voyages en 2 mois.
Voilà. Donc, il y a un problème. Il y a assurément un problème. Donc, ça veut dire que Alexandre Benalla faisait déjà autre chose avant.
Mais bien sûr. Et avait
d'autres contacts avant.
Mais Philippe Bas dit, oui, les faits qui sont rapportés à travers ces enregistrements viennent ajouter au crédit à cette hypothèse que M. Benalla aurait été associé pendant l'exercice de sa mission à l'Élysée à un contrat avec cet oligarque russe. Mm-hmm. Le danger. Certains disent que ce n'est pas grave, ça met quand même quelqu'un qui est à l'Élysée dans une situation...
Non, Valérie, on ne peut pas à la fois se plaindre, comme d'ailleurs l'a fait Emmanuel Macron, d'ingérence russe au travers des journaux, etc. À la fois se plaindre de ce type d'ingérence et avoir quelqu'un dans son entourage qui rencontre des oligarques russes pour quoi faire.
Et je vous rappelle qu'il manque toujours un coffre-fort qui a disparu pendant une perquisition. Hein, le fameux mystère du coffre-fort sera peut-être percé un jour, comme on aurait dit les...
Alors, on a deux appels. On a Eric.
On a quand même des questions.
Eric qui nous appelle de Tours. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Je voulais vous dire qu'en fin de compte, cette affaire Benalla, en dehors du fait qu'elle est très grave, elle est symptomatique, si vous voulez, de l'état du système dans lequel on vit. Puisque lorsque vous regardez depuis quelques années l'accumulation de tous ces scandales, c'est-à-dire le scandale des autoroutes, les Panama Papers, les Paradise Papers, enfin bref, les aéroports, la privatisation des aéroports, toute cette accumulation, en fin de compte, le mouvement des Gilets jaunes découle de cette accumulation. Ça n'est pas mettre de l'huile sur le feu que de parler de l'affaire Benalla. Ça, en fin de compte, c'est symptomatique de ce système sous lequel on vit. Monsieur Macron a été élu, mais en fin de compte, c'est un produit de ce système dans lequel on vit. Et ça dure depuis je ne sais combien d'années. Et Après, on entend nos politiques dire s'étonner de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais regardez un peu tous ces scandales qui ont été révélés et que font les politiques aujourd'hui ? Oui. Ils votent la loi anti-casseur. Oui. Nous avons des dizaines et des dizaines de milliards qui sont concrètement cachés, mis sous la couverture, mis dans des bas de laine, dans des paradis fiscaux. Et après, nous avons le mouvement des Gilets jaunes. Et que fait le pouvoir en place, ce régime, hein, j'entends. Que fait ce régime? Il vote la loi anti-casseur. Mais on veut où, là? C'est quand même assez dingue. Pour qui travaillent nos élus? Qui représentent-ils? Qui défendent-ils? Est-ce qu'ils défendent le peuple au sens propre et au sens noble du terme? Ou est-ce qu'ils défendent, en fin de compte, ce pouvoir de l'argent? C'est-à-dire, en fin de compte, aujourd'hui, ce n'est plus le politique qui dicte la loi. C'est l'argent, c'est l'économie. On ne fait plus une politique en fonction du progrès de l'humanité, mais on fait une politique en fonction du progrès des bénéfices. Et la bourse, vous vous rendez compte quand même, par exemple, que maintenant ce sont des ordinateurs qui font les échanges boursiers? Non mais attendez, il y a un problème. La spéculation boursière est faite par des ordinateurs. Où va tout cet argent? C'est-à-dire
vous allez beaucoup plus loin, mais c'est intéressant.
Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire l'auditeur, notre auditeur là, qui argumente très très bien et avec laquelle on est grosso modo d'accord, c'est aussi le fait que dans cette affaire financière dont il parle, à Davos, il y a eu l'intervention du directeur un très important fonds de pension canadien qui a dit clairement, lui, alors qu'il gère 270 milliards de dollars, il a dit, mais beaucoup d'investisseurs aujourd'hui se comportent comme des touristes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont rien à faire de ce que fait l'entreprise. La seule chose qui les intéresse, c'est les dividendes. Voilà. Et donc, effectivement, j'insiste sur ce point, parce que c'est bien ça qui est aussi en jeu, c'est-à-dire cette espèce de politique économique qui ne vise qu'à aller dans les poches des actionnaires, au détriment de l'intérêt public et du sens de la chose publique.
Oui, et puis quand on parle de privatiser ou de vendre les aéroports, la Française des Jeux, des choses comme ça, il faut pas s'étonner que ça attire les affairistes du monde entier, parce que ils vont jouer au Monopoly avec les biens de la France. Et Macron étant un produit pur du système, là quand même, je n'ai pas lu votre livre, mais la grande arnaque d'Emmanuel Macron, c'est que ça te fait passer pour quelque chose d'autre que ce qu'il était. Produit pur du système, simplement, il a réduit les temps de passage d'un poste à l'autre. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Il va à fond dans cette problématique-là, et je pense que Benalla est en partie, sans doute, un de ses bras armés dans un combat qui est le combat de
l'économie. Il y a une logique dangereuse et perverse de cette affaire par exemple, de vouloir valoriser, vendre des aéroports à l'étranger, etc. Parce que jusqu'où va-t-on quand Emmanuel Macron reçoit à Versailles 150 grands chefs d'entreprise internationaux? Qu'est-ce qu'on est prêt à concéder? On est déjà prêt à concéder une partie du code du travail pour avoir plus de souplesse. On est prêt à concéder un certain nombre d'assouplissements et de réformes, comme on dit entre guillemets. C'est moi qui mets les guillemets, qui sont en réalité sont des régressions sociales. Et qu'est-ce qui se passe sous la table? On ne sait pas. Je ne fais pas de procès, je ne suis pas dans le complotisme. Mais à un moment donné, quand on est décidé...
Quand on est décidé
à valoriser l'entreprise France, quand on est décidé à dire il faut être attractif, on est prêt à vendre des morceaux de ceci ou de cela, mais jusqu'où on va?
Oui, mais quand on fait le cumul des réformes, CICE, ISF, loi alimentation, on se rend compte que finalement, on accorde toujours des avantages aux mêmes, aux grands groupes, aux grands groupes alimentaires, sans aucune compensation ni aucune obligation au regard de tout ça, et finalement qui paye? Le consommateur, c'est-à-dire le citoyen, parce que le sens de l'intérêt général a été complètement oublié de la part des grands dirigeants, au profit effectivement d'une économie néolibérale qui est complètement hors de contrôle.
Yvan?
Oui, non, mais pour revenir sur le parallèle que faisait cet auditeur entre l'irritation des Gilets jaunes et ce monde à part, en effet, il a tout à fait raison de dire que c'est une caricature, dans le fond, à travers cette affaire Benalla, c'est une caricature qui nous est proposée de ce monde parallèle, de ce monde qui a un sentiment d'impunité, qui a une morgue qui dépeint naturellement sur tous les subalternes, une morgue présidentielle qui dépeint sur ses subalternes. Et donc, on comprend très bien que les gens d'en bas ne puissent plus se retrouver, ils n'ont plus rien de commun avec ce monde d'en haut, naturellement, qui est un monde clos, qui est un monde qui se renvoie les ascenseurs et qui fait ses petites affaires entre soi. Et ceci devient même dramatique et potentiellement insurrectionnel, parce que dans l'état d'exaspération qu'est la société aujourd'hui, de montrer à ce point comment les gens se servent
Et c'est ce que disait Pierre au début, notre premier auditeur, qui disait qu'il ne faudrait pas trop en parler de l'affaire Benalla. Parce
il, faut
que c'est...
il faut au contraire en parler, parce que cela fait partie de la, du problème qui est aujourd'hui posé.
Dans la suite de ce que...
D'un pouvoir qui ne s'intéresse
pas. Dans la suite de ce que vient de dire Yvan, avec qui je suis parfois d'accord, hélas.
Attention, on file un mauvais coton.
Tout arrive.
L'un des deux file un mauvais coton.
C'est la fin du mal.
C'est simplement pour rappeler, bon, tout le monde le sait, mais les propos de Macron, enfin d'Emmanuel Macron quand même. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne sont rien. Mais comment quelqu'un de normalement constitué peut là, recevoir ça sans le recevoir comme une gifle? Et là, il vient d'en rajouter. Il vient d'en rajouter. C'est là que je voulais y venir. Ouais.
Je vais vous la dire. Hier, il a reçu donc des journalistes à l'Élysée. Il s'en est pris aux chaînes d'infos. Et il ironise en disant « Jojo avec un gilet jaune a le même statut qu'un ministre ou un député ». Le journaliste dit s'il en veut donc aux chaînes d'infos, il juge paradoxalement que la réponse aux commentaires permanents, c'est peut-être le débat permanent, mais le jojo avec un gilet jaune.
C'est terrible, scandaleux. Moi, je suis. Si j'étais sur un rond-point, je le prends dans le ventre comme une. C'est d'une violence extraordinaire en réalité, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu dans la suite de ce qu'avait dit Benjamin Griveaux, ceux qui fument des clopes et qui roulent le diesel, ce qui est d'autant plus cocasse d'ailleurs qu'il vient d'arrêter de fumer il y a 6 mois.
On est revenu effectivement. Ouais. Eric nous a emmené un petit peu plus loin. On a un autre Eric en ligne avec nous de Béziers. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous vouliez nous dire vous sur l'affaire Benalla?
Eh bien voilà, je voulais revenir sur l'affaire Benalla, qui est pour moi une affaire d'État, je pense honnêtement, qui est une affaire gravissime pour notre président et pour l'État français et pour la France. Et la question que je me pose, que font les services de l'État quand je m'aperçois que 3 journalistes de Mediapart arrivent à avoir des informations que les services d'État eux-mêmes, pourtant je pense qu'en France on a ce qu'il faut, voilà. Et pourquoi eux et pourquoi les services de l'État au niveau de la justice ou autre, Monsieur Benalla se permet de mentir devant des sénateurs, Monsieur Benalla se permet beaucoup de choses, mais Monsieur Benalla est toujours en liberté aussi. Mmh. Et comment les journalistes, eux, ces 3 journalistes de Mediapart, peuvent avoir des informations que l'État n'a pas.
C'est une bonne question, parce que la source des enregistrements, on peut se demander qui a intérêt à ce qu'ils soient rendus publics. Comment est-ce qu'ils ont pu être enregistrés? Est-ce que c'est une vengeance de Vincent Crase? Je pense pas que ou de Benalla, mais quel est l'intérêt? Qui a intérêt? Qui a enregistré? Ce sont des bonnes questions. Et alors, je sais pas si c'est vous, Eric, on a un Eric sur Internet qui nous dit, n'oubliez pas tous ces postes importants distribués aux proches de Macron, des multiples parjures des fonctionnaires entendus par le Sénat ont couvert Benalla. Qui est vraiment ce type? Pourquoi a-t-il pu faire son business tranquillement avec ses passeports? Pourquoi n'est-il pas dès aujourd'hui sous mandat de dépôt?
C'est vrai qu'il faut... Qui est Benalla? Parce que c'est quand même chaque jour, on se pose cette question.
Mais surtout, l'autre question, c'est quand même qui a fourni ces enregistrements. D'abord, qui a enregistré, où est-ce que ça s'est passé, et qui a fourni à Mediapart, a priori, c'est comme ça que ça se passe. C'est une main anonyme qui vient fournir.
Enfin, une conversation entre deux personnes, il y a fort à parier que c'est une des deux personnes qui a donné.
Il peut y avoir une pièce sonorisée.
Ils se sont rencontrés dans un café.
C'est dans un café, on ne sait pas, c'est dans un café.
Si, c'est dans un café. C'est dans un café, dans l'arrière-salle d'un café.
A priori, le plus simple, c'est de mettre un téléphone qui enregistre, mais.
On est dans la spéculation, mais il n'est pas impossible aussi que parmi les serviteurs de l'État, je dirais honnêtes, qui pouvaient assister cet honnête du statut de Benalla,
une conversation privée entre deux hommes qui ne doivent pas se rencontrer puisqu'ils ont une interdiction faite par la loi de se voir, puisque sont tous les deux mis en examen. Comment ces enregistrements ont pu être réalisés?
Il n'y a pas que Benalla qui est malin.
Benalla n'en tire aucun profit, Crase non plus, donc ça, a priori...
Crase est très prudent, quand vous écoutez les 5-6 extraits, il ne relance pas, il ne dit rien. Je ne sais pas, ce sont des hypothèses, on n'en sait rien. Ou alors, il y a eu des micros, effectivement, la salle était sonorisée. Attendons la suite, comme vous dites, Mediapart, certainement, d'autres choses à nous révéler.
On a bien vu que Google, j'ai vu ça hier ou avant-hier, pouvait écouter des adolescents pendant une semaine dans leur chambre à leur insu.
Ah bon, oui, oui, mais oui, même, même les assistants vocaux,
les assistants vocaux. Incroyable.
Alors, peut-être que c'est ça, on ne sait pas, mais enfin, effectivement. On va se retrouver dans un instant, on va parler donc de l'acte 12 des Gilets jaunes, et puis d'Emmanuel Macron, de ses déclarations hier, où il dit qu'il allait éviter les petites phrases, il veut imiter Angela Merkel, qui ne va plus au contact des gens en colère. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que ce sera un acte 12 violent? En tout cas, ce mouvement continue et ne s'arrête pas. Enfin, c'est un peu pareil. C'est un peu comme Laurent Wauquiez qui dit à Éric Zemmour que son livre est très bien parce que c'est une succession de chapitres. Donc c'était très bien. Allez, donc ça continue parce que ça ne s'arrête pas. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est en direct jusqu'à midi avec Laurence Marchand-Taillade, Maurice Ulrich, Michel Pouzol et Yvan Rioufol. Acte 12 demain des Gilets jaunes. De nombreux événements Facebook ont été créés en vue de l'organisation donc de cette 12e journée des Gilets jaunes à Paris. Donc les blessés des précédentes manifestations seront à l'honneur. Le gouvernement continue de relayer ce grand débat. Emmanuel Macron donc a promis hier de surveiller ses petites phrases et il a ironisé donc sur Jojo le gilet jaune. Alors est-ce que ça va énerver un peu plus ceux qui manifestent? On l'a évoqué tout à l'heure.
Moi Maurice, je pense que c'est quand même curieux. À la fois il dit je vais arrêter les petites phrases et il en balance une. ouais. Qu'est-ce que c'est que c'est? Enfin il veut mettre le feu. J'ai l'impression moi c'est quand même un problème parce que je pense. Je dis il veut mettre le feu. C'est figuré, bien entendu. Mais je pense qu'il y a chez Emmanuel Macron une volonté de cliver. Hein, de cliver d'abord, de détourner le débat qu'il a lui-même lancé en bottant en touche très loin sur les questions institutionnelles, etc., et en évitant les questions sociales. Et une volonté de cliver en rassemblant les siens. C'est-à-dire qu'en fait, à qui parle Emmanuel Macron quand il dit « Jojo, le gilet jaune » ? Il parle aux gens qui sont comme lui, qui sont des gens intégrés, qui sont dans cette mondialisation entre guillemets heureuse, et qui sont au fond ceux qui se reconnaissent en lui. C'est-à-dire qu'il parle à ses semblables. Et il parle aussi un petit peu à une partie de la droite qu'il espère récupérer, ce qu'il a déjà réussi à faire pour partie avec les questions sécuritaires, etc. Donc, il veut cliver, mais pourquoi ? Eh bien, parce qu'il veut rassembler son camp, aller un petit peu au-delà, sur la droite, etc., et nous refaire le coup à la prochaine fois, au secours, Le Pen arrive, votez pour moi. C'est ça le truc. Et je trouve que c'est une stratégie qui est particulièrement odieuse et qui en plus s'accompagne de cette politique de régression sociale qui vise à servir la finance. Donc on est devant une situation qui appelle, à mon avis, bien plus que des manifestations tous les samedis, auxquelles moi je pense que ça va continuer, et je les condamne absolument pas, bien au contraire, mais qui appelle aussi une réponse au niveau syndical, au niveau des entreprises. Parce qu'au bout d'un moment, cette financiarisation de l'économie, c'est aussi un problème qui se joue au sein de l'entreprise même. Oui. Et donc, je pense qu'il serait bon, de mon point de vue, que je dirais que les Gilets jaunes et les syndicats puissent se rencontrer, dialoguer et aller vers des constructions.
Ouais, le dialogue, il est compliqué. Hein. Oui, mais bon, le dialogue,
des propos injurieux qu'a tenu la CGT sur ce mouvement quand il a démarré.
Non, mais il y avait une méfiance au départ.
La CFDT, pardon. Il y a une méfiance au départ. La méfiance est restée, en tout cas, de la part des Gilets jaunes.
Et c'est même aggravé. C'est-à-dire qu'il y a un rejet total.
Non, je ne crois pas.
J'ai un doute sur la métamorphose des Gilets jaunes. Parce que
je ne parle pas de métamorphose, je parle de rencontre, simplement.
J'ai un petit doute là-dessus. J'aimerais bien, effectivement, que les choses se passent. Mais j'ai encore un petit doute parce qu'on voit bien que sont très attachés à leur propre indépendance et à leur indépendance d'ailleurs multiple, puisque
c'est pas une raison pour ne pas se rencontrer.
Bien sûr, oui, mais sauf que déjà entre eux, c'est difficile. Donc c'est pas si simple que ça quand on n'est pas organisé, quand on est un peu freestyle, je dirais, pour parler un mot horrible, c'est un peu compliqué. Par contre, moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est qu'on a bien compris que Emmanuel Macron ne changera pas de politique. C'est clair. Et donc, il ne cherche qu'à gagner du temps. Ces petites phrases le prouvent.
Il va être obligé.
Il a deux feux offerts. Il a deux feux offerts et un troisième qui va arriver assez rapidement, c'est-à-dire l'affaire Benalla dont on a largement parlé, les Gilets jaunes et cette crise sociale qui est profonde, avec lequel il peut faire avec, hein, s'il parle effectivement à ses propres troupes. Et puis, le troisième fourfeur, ça sera les Européennes, qui vont être fondamentales. Ouais. Et s'il arrive aux Européennes dans la situation où il est aujourd'hui avec 20% d'intention de vote et 20% pour le Front National, il nous refait effectivement le numéro de « c'est moi ou le chaos » au niveau européen. C'est extrêmement dangereux. Parce que s'il ne sort rien, moi ce que je dis depuis quelques temps, s'il ne sort rien de ce des grands débats, qui n'en est pas un, il faut se le dire, mais s'il ne sort rien... que de la colère supplémentaire, oui, que de la frustration supplémentaire, aucun changement de cap, alors la situation-là va devenir explosive, mais explosive pour tous, et y compris pour la démocratie. Et on pourrait avoir une situation effectivement insurrectionnelle, telle qu'on n'en a jamais connue, ou en tout cas depuis très longtemps. Et tout ça, ça pose des questions effectivement à tout le monde, mais lui, en premier, il est responsable, et il est garant de ça. Il n'est pas à la hauteur de la présidente de la République.
C'est volontaire de la part d'Emmanuel Macron, parce que pour l'instant, tant qu'on débat, on ne s'intéresse absolument pas au débat des Européennes, et je pense que c'est totalement volontaire, parce que ce que veut Emmanuel Macron, finalement, c'est attendre au plus tard possible pour pouvoir commencer officiellement cette campagne des Européennes, et continuer à faire monter en puissance des éventuelles listes Gilets jaunes, dont on a vu que de toute façon au niveau des sondages ça lui était favorable puisque ça avait tendance à faire voter, à faire descendre l'électorat d'extrême droite ou d'extrême gauche. Le problème c'est que parmi les Gilets jaunes, à mon avis, il n'y aura pas d'évolution politique, en tout cas monolithique. Ce qu'il va falloir c'est qu'il y ait conscientisation politique de la part individuelle de chacun des Gilets jaunes et qu'ils puissent s'investir individuellement, parce que quand on regarde les revendications, elles sont multiples et elles pourraient correspondre à beaucoup
de
mouvements différents.
Sauf qu'ils ne veulent pas de l'interlocuteur qu'est aujourd'hui le gouvernement. On le bien voit entendu, bien avec tous les Gilets jaunes
qui interviennent. Bien entendu, mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils s'investissent politiquement ou syndicalement, mais en tout cas qu'ils s'investissent individuellement.
Enfin, vous avez vu la difficulté qu'ils ont déjà à monter une liste jaune.
Mais c'est pour ça que ça ne doit pas être une liste jaune, ça doit être des individus qui s'investissent en tant que citoyens. Le bloc Gilets jaunes, en soi, n'existe pas. Mais, Par contre, sur la fin de ces manifestations, moi, je pense que s'il y avait dû y avoir une mise définitive de mot de fin, ça aurait déjà eu lieu. En l'occurrence, on se rend compte que Castaner et la préfecture sont dans l'incapacité totale de gérer notamment les dérives violentes. Et en l'occurrence, on se rend compte finalement que En Marche est à l'arrêt.
Castaner doit démissionner.
Ouais, alors juste un auditeur qui nous dit « Dommage que vos invités ne parlent que de l'affaire Benalla, car avant-hier, hein, concernant la vraie raison du refus de Chantal Jouanneau de présider le grand débat est aussi très important.
Oui. » On en parle. Ma conviction, c'est que depuis le départ, le président de la République ne comprend rien à ce mouvement, bien qu'il dise qu'il l'avait compris, qu'il pourrait porter un gilet jaune.
Si je puis parler, pour le coup, il n'est pas le seul.
qu'il pouvait porter un gilet jaune, qu'il se dit lui-même populiste.
Oui, il le dit lui-même. Il dit, je peux être gilet jaune.
Il le dit aujourd'hui. Et dans le fond, c'est vrai, parce que c'est un mouvement qui lui ressemble. C'est-à-dire que le mouvement des gilets jaunes est un mouvement de réveil de la société civile, comme l'avait été le mouvement de la République En Marche, qui était le réveil de la société civile un peu plus privilégiée que celle-ci. Sauf qu'en effet, il pourrait y avoir une porte de sortie où il endosserait le gilet jaune, mais simplement s'il devait l'endosser, il doit endosser également ce que disent les gilets jaunes. Or, ce que disent les gilets jaunes, c'est précisément à l'opposé de ce qu'il raconte. C'est-à-dire que lui défend, pour aller vite, la mondialisation, l'Europe souveraine, l'en marche, c'est-à-dire le désenracinement, enfin, le bougisme, si vous voulez. Et alors que ces gilets jaunes-là sont en train de dire qu'ils privilégient au contraire la souveraineté, l'enracinement, le peuple, la nation, le drapeau français, la Marseillaise. Et contrairement d'ailleurs à ce que vous dites, je ne les vois pas, moi, adhérer à une idéologie qui pourrait avoir la caution du Parti communiste ou de la gauche, c'est-à-dire que ce sont des petits patrons, ce sont des employés, ce sont des gens qui se reconnaissent dans le MEDEF ou en tout cas qui ne veulent pas de mal. Qui ne demandent pas les grèves, qui ne font pas rien.
Nous en province on a beaucoup, moi j'ai beaucoup de camarades de génération qui sont gilets jaunes aussi, enfin il y a
rien, c'est le terreau est davantage libéral que
ce que je veux dire c'est que je pense que les gilets jaunes devraient se rendre compte, pour certains ils le font, que la politique d'Emmanuel Macron ne les concerne pas qu'eux. C'est-à-dire que c'est une politique globale, y compris dans sa dimension internationale, et qui, au fond, est une politique de régression sociale, globalement au service de la finance, voilà, pour essayer de faire court. Et donc, je pense que cette prise de conscience, elle devrait progresser de telle sorte qu'au fond, on arrive à ce qu'il n'y ait pas de sentiment de contradiction entre des revendications dans les entreprises et des revendications sur les ronds-points.
Ce qu'ils ont fait comprendre à tout le monde, et à la droite en particulier, c'est que la question sociale, qui était quand même un important pensée d'une partie de la droite de Fillon, à un moment donné, quand même, le problème de Fillon était très pauvre sur la question sociale. Et aujourd'hui, la question sociale s'impose singulièrement à la droite, et elle doit trouver les réponses adéquates, parce que je pense que la droite est davantage sur son terreau vis-à-vis de ce que réclament les Gilets jaunes que ne pourrait l'être la gauche. Et d'ailleurs, c'est ce que montrent à peu près les sondages.
On a Clotilde en ligne qui attend depuis un petit moment. Clotilde, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors là, tout de suite, je réagis à des propos que j'ai trouvés absolument atroces. Oui. Les Gilets jaunes ne seraient pas en clivage avec le MEDEF.
Ils ne sont pas OK, ce qui est dit ça.
Oui, c'est moi. C'est-à-dire que dans les luttes sociales, on s'aperçoit d'abord qu'en général, le MEDEF est pris pour cible, on manifeste sous les locaux du MEDEF. Et ce que j'ai voulu dire par là, c'est que le MEDEF n'a pas été mis en cause dans les revendications.
Dans les revendications.
C'est une constatation.
Et
la raison en est qu'il y a beaucoup de petits patrons et que ces petits patrons savent ce qu'est le libéralisme, le libre-échange. Non pas le laissez-faireisme, mais la libre entreprise.
Les petits patrons, c'est pas le MEDEF.
Mais il n'y a pas de défiance, c'est qu'on ne retrouve pas les repères de la lutte des classes où, en général, le patron est désigné.
Il nous reste une minute, Clotilde. Vous écoutez.
Sur la question qui m'était posée, moi, je serai samedi dans la rue. Et si je suis rentrée dans les Gilets jaunes, si j'ai pris le train en marche, c'est parce que j'ai vu que c'était un mouvement de fond et que ça ne durerait pas 2-3 manifs, justement. Oui. Qu'il y a une remise en cause qui est extrêmement profonde. Les attaques que subit la population, les gens qui travaillent, les chômeurs, les précaires et tout ce que vous voulez, sont tellement fortes qu'il n'est pas question de lâcher maintenant, quoi. Parce que si on arrête, ça va être pire. Le monde d'après, il est là pendant 6 mois.
Bon, merci. Merci de nous avoir appelés, Clotilde. Merci à vous. Merci à vous quatre. Très bon week-end. Dans un instant, André Berkoff va nous rejoindre. Et très bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Bon week-end à tous.